France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les vaccinations contre le Covid-19 pourraient débuter en France ce dimanche, partout en Europe d'ailleurs, puisque l'Agence européenne des médicaments ainsi que la Commission européenne ont donné leur accord dès hier, accord pour utiliser le vaccin Pfizer-BioNTech, un sérum disponible dans tous les pays au même moment et dans les mêmes conditions. Voilà ce qu'a précisé hier soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit se rendre en France dans un entrepôt logistique mobilisé pour l'acheminement du vaccin. La France, qui réfléchit aussi à rapatrier ses ressortissants coincés en Grande-Bretagne, coincés à cause de la variante du Covid-19, elle est jugée problématique et beaucoup plus agressive par Emmanuel Macron. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbaré, a déclaré hier soir qu'un protocole sanitaire serait mis en place au niveau européen dans les prochaines heures. Il permettra la reprise du trafic entre l'île et le continent. En attendant, je vous le rappelle, toutes les arrivées en provenance du sol britannique sont interdites. D'ailleurs, les Britanniques craignent des pénuries de produits frais pour les jours qui viennent et notamment pour Noël à cause de ce cordon sanitaire. 20% des importations du pays arrivent par le port de Douvres et le tunnel sous la Manche. L'Ocean Viking va pouvoir reprendre le large. Le navire humanitaire était bloqué depuis 5 mois maintenant par les autorités italiennes. Il y a urgence à repartir. Il n'y a aucun navire humanitaire sur place, indique l'ONG de secours aux migrants SOS Méditerranée. Les naufrages d'embarcations de fortune ont fait 1100 morts en Méditerranée cette année. Les candidats à l'exil s'étant multipliés, partant pour l'essentiel de Tunisie et de Libye pour espérer rejoindre l'Italie. Enfin, notons qu'aux États-Unis, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont commencé il y a un peu plus d'une semaine et qu'hier, le président élu Joe Biden, 78 ans, s'est fait vacciner en direct à la télévision. Il a reçu le sérum produit par le laboratoire américain Pfizer.
Le meilleur des chemins en 2020, c'est de la philosophie, du cinéma et du théâtre.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Retour au monde avec Husserl, Les affranchis de Martin Scorsese. Qu'est-ce que le mal radical dans l'œuvre d'Emmanuel Kant? Et enfin, Hamlet de Shakespeare par Olivier Py. De quoi tenir bon jusqu'à Noël.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Aux sources du funk. Un vinyle dans un livret de 28 pages pour plonger dans l'Amérique brûlante des années 60 et 70 qui voit la soul music devenir la funk. Avec une playlist originale et un récit sur mesure, Aux sources du funk est un vinyle book adapté de l'émission Jukebox d'Amaury Chardot le dimanche à 15h sur France Culture et sur l'appli Radio France. Aux sources du funk, un vinyle book France Culture, actuellement dans les parcs.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture. C'est l'heure de la chronique de Bruno David, Le Monde Vivant, consacré ce matin aux vampires.
Le comte Dracula se glisse hors de son tombeau. Vlad part à la recherche d'une gorge innocente. Il y plantera ses canines, se repaissant du sang de sa victime, qui sera à son tour transformée en une créature de la nuit, un vampire. Pour son roman Dracula, paru en 1897, Bram Stoker tire son inspiration d'un entrelacs de mythes aussi anciens que divers qui mettent en scène des morts-vivants nocturnes suçant le sang de leurs victimes. La légende s'était enracinée en Europe vers 1725 suite à deux affaires serbes qui auraient impliqué des individus revenus d'entre les morts assoiffés de sang. Des affaires sérieuses qui avaient poussé un pasteur à publier en 1728 un ouvrage où il utilise le terme « vampirie ». Le terme provient du serbe « vampire », qui désigne dans la plupart des langues slaves la chauve-souris. Nous y voilà. Étrange. Vraiment étrange, car nulle chauve-souris suceuse de sang n'existe dans les Balkans ni ailleurs en Europe. En revanche, « vampire » est le nom attribué à certaines chauves-souris d'Amérique du Sud, mais attention, seulement depuis 1770, sous la plume de Philippe Serran, dans un ouvrage de géographie, à une date bien postérieure aux affaires serbes. On est en droit de supposer que, dans un premier temps, le nom slave de chauve-souris, vampire, a été donné aux morts vivants suceurs de sang, parce que les deux sont nocturnes. Puis en 1770, des chauves-souris sud-américaines suceuses de sang reçurent le nom de vampires en référence au mythe. Une sorte d'aller-retour entre histoire naturelle et légende. Il convient aussi de relativiser cette réputation populaire de suceurs de sang. En effet, parmi 1150 espèces de chauves-souris, seulement 3 sont hématophages. Le vampire commun, le vampire à ailes blanches et le vampire à pattes velues. Tous les 3 habitent l'Amérique tropicale. Le premier se nourrit du sang des mammifères, les 2 autres du sang des oiseaux. Ces petits animaux ont une denture à peu de dents, mais spécialisée. Les molaires sont moins développées que chez les chauves-souris frugivores, et les incisives de grande taille sont très tranchantes. Leur museau est muni de capteurs de chaleur. Elles approchent leur proie endormie en marchant à pas de loup, même si elles sont capables de voler. Ce sont d'ailleurs les chauves-souris qui ont le plus développé la marche. Après l'incision, l'animal ne suce pas le sang, mais le lappe. Les quantités sont importantes. Ces chauves-souris peuvent ingérer plus de 50% de leur poids en 30 minutes. On comprend mieux l'importance de la marche quand la surcharge empêche de décoller. Leur salive contient une protéine anticoagulante, la draculine. Son pouvoir anticoagulant est 100 fois supérieur à l'anticoagulant le plus puissant connu. Il arrive donc que la proie saigne encore longtemps après que le petit vampire ait terminé son repas. Mais elle n'en mourra pas. La réalité est ici moins spectaculaire que la fiction. Quoi qu'il paraîtrait que par des nuits sans lune, mais je ne voudrais pas vous inquiéter.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Mes deux invités ce matin sont l'écrivaine Frédéric De Gelt et la photographe Astrid Di Crolalanza qui ont décidé de porter leur regard sur des personnes handicapées. Pour un livre, un film et aussi pour une exposition. Exposition qui a eu lieu l'année dernière au Musée de l'Homme et qui est aujourd'hui visible en extérieur à la mairie du 16e arrondissement de Paris.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Deux photos grand format d'Astrid Di Crolalanza sont disponibles et visibles à la mairie du 16e arrondissement, en extérieur dans les grilles de la mairie. C'est une histoire d'une rencontre entre vous, Astrid Di Crolalanza, bonjour, vous êtes avec nous.
Bonjour, oui, tout à fait.
Et l'écrivaine Frédéric De Gelt. Alors pour résumer un peu votre carrière, Astrid Di Crolalanza, vous êtes photographe pour des grands magazines en France, Le Monde, Libération. Donc vous prenez en photo, vous faites des portraits de célébrités, d'artistes, de comédiens, de footballeurs, mais aussi d'écrivains. C'est d'ailleurs, je crois, comme ça que vous rencontrez Frédéric De Gelt, qui est écrivaine et ancienne journaliste. Comment êtes-vous arrivée à travailler ensemble autour de ce projet, c'est-à-dire autour des personnes handicapées?
Alors je crois que la parole va revenir à Frédéric De Gelt, puisque je l'ai rencontré à l'occasion de la sortie de son livre aux éditions Flammarion, L'œil du prince, et j'étais venue pour la photographier, voilà, pour le portrait de ce livre, puisque je réalise des portraits de tort pour les grandes maisons d'édition. À partir et à l'issue de cette séance photo, je laisse la parole à Frédéric De Gelt, qui m'a proposé ce merveilleux projet.
Frédéric De Gelt, oui. Qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, je suis là. Je n'aime pas l'exercice. Je suis de l'autre côté aussi. En tant que journaliste, j'étais de l'autre côté et puis j'ai travaillé en agence photo. Donc j'ai trouvé cette photographe totalement solaire, totalement merveilleuse. Et à l'issue de la, ça a été très vite, à l'issue de cette première rencontre, c'est-à-dire au bout d'une heure, je lui ai dit, j'ai un projet, je voudrais le faire avec toi. Le projet est venu parce qu'une semaine avant, mon fils, qui est donc handicapé moteur et à qui j'expliquais ce que c'est des recherches génétiques, m'a dit « Mais moi, j'étais normale dans ton ventre. » Donc je lui ai dit « Mais c'est quoi être normale ?» Et il m'a répondu « C'est être beau et pas bavé. » Donc vous voyez, c'est le titre de l'exposition, Être beau. C'était une évidence. Il se voyait moche et d'autres avec lui. Et j'avais envie que tous ceux qui ne sont pas dans les normes et dans les clous ne souffrent plus du regard des handicapés de la norme et puissent à la fois s'exprimer et à la fois laisser passer leur beauté, parce que comme vous ne le voyez pas là, mais vous le verrez si vous allez voir l'expo, ils crèvent l'écran. Et donc avec Astrid, on a commencé à travailler comme ça.
Vous avez décidé à un certain moment d'aller à la rencontre des handicapés, Frédéric de Gelt.
On a commencé avec mon fils, puisque c'était l'évidence de le mettre en scène lui, puisque c'était de lui que venait cette phrase. Et ensuite, on a proposé, parce que c'était difficile, on va pas aller voir les gens dans la rue comme ça en leur disant « vous êtes handicapé, on va vous prendre en photo ». On a commencé par les thérapeutes de mon fils qui nous ont mis en contact avec des familles et avec des adolescents ou des enfants ou des jeunes adultes. Parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant, que souvent quelqu'un qui a un handicap a une mauvaise image de lui-même, et le fait d'en faire une star et de le mettre en photo pouvait être un exercice intéressant pour lui.
Mais quand vous dites Frédéric de Gelt, j'ai tout de suite senti qu'Astrid di Crolla-Lanza allait pouvoir faire ce projet avec moi. Ça veut dire quoi au juste?
C'est de l'ordre de l'intuition, c'est quelque chose. J'avais même pas vu son travail avant de lui proposer, pour tout vous dire. Je ne connaissais pas du tout cette photographe, je n'avais même pas vu des gens qu'elle avait photographiés. J'ai senti dans sa façon d'aller chercher quelque chose qu'elle avait un truc rare. C'est quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va chercher à la fois l'image, puisque c'est ce qu'elle photographie, mais elle va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Elle saisit ce qu'il y a à l'intérieur, quelque chose qui est votre être intérieur. Et c'était ça que je sentais chez elle et que j'avais envie de voir sur toutes ces personnes, justement.
Quand Frédéric de Gelt vous propose ce projet, c'est-à-dire aller à la rencontre de personnes handicapées et les photographier pour les rendre beaux, ou photographier la beauté, c'est-à-dire d'aller chercher cette beauté, Astrid di Crolla-Lanza, comment vous avez réagi? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées?
Spontanément, puisque la séance photo s'est déroulée vraiment dans une intimité et dans une évidence de relation entre nous deux, je lui ai tout de suite dit oui. Et puis j'ai rencontré Jim, qui était là.
Donc le fils de Frédéric de Gelt.
Absolument, qui est donc la personne que j'ai photographiée, la première personne que j'ai photographiée et qui a validé en fait toute la continuité et la poursuite de ce travail. Alors évidemment, on se pose beaucoup de questions, on espère être la plus juste possible, même si d'enthousiasme je lui ai tout de suite répondu oui, il était absolument évident qu'on allait le faire ensemble. Après coup, je me suis dit, vais-je être juste? Vais-je ne pas dépasser certaines limites? Ne pas photographier une personne parce que, là pour le coup, parce qu'elle est handicapée. C'est la photographier vraiment parce qu'elle est ce qu'elle est, avec son entièreté, avec sa complétude, avec tout ce qu'elle renvoie à l'autre, tout ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'on va absolument au-delà de l'apparence, au-delà de l'apparence, mais on fait avec l'apparence et c'est-à-dire qu'on ne s'empêche rien, et je souhaitais ne pas tricher et être totalement engagée dans une recherche de vérité. Et on se pose toutes ces questions, on se demande, vais-je être à la hauteur de cette responsabilité? Et puis après, les rencontres ont fait que, bien évidemment, tout était très simple. Comme avec n'importe qui.
Mais vous avez pris du temps, c'est un travail qui vous a pris au moins 3 ans pour réunir ces portraits, pour rencontrer ces personnes.
Alors en fait, nous avons procédé à 4 mains, c'est-à-dire que nous les avons rencontrés ensemble, nous les avons côtoyés ensemble, tout s'est fait en duo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, Frédéric ne les a pas rencontrés avant moi, je ne les ai pas rencontrés avant elle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos rencontres et au fur et à mesure de notre vie professionnelle ou de notre vie personnelle, nous avons trouvé diverses personnes qui se sont à qui nous avons proposé le projet, qui nous ont répondu toutes avec beaucoup d'enthousiasme. À partir de là, la photographie est venue. Il y a eu, en fait, pour chaque modèle, il y a eu une journée de séance de pose.
Oui, parce qu'il faut le préciser, ce ne sont pas des photos de reportage, ce sont des photos posées, ce sont des photos artistiques où les personnes sont en situation de mannequin. Elles posent, elles sont dans une mise en scène. Alors cette mise en scène, elle vient de vous, elle vient de Frédéric de Gelt, de vous deux, ou ce sont les personnes elles-mêmes qui ont proposé des mises en scène?
C'est un travail collégial, c'est un travail de concert en fait. Ça s'est réalisé, c'est-à-dire que après chaque rencontre, nous avons réfléchi ensemble. Moi, j'ai proposé, évidemment, j'ai donné une impulsion sur des idées artistiques. À partir de là, les personnes qui ont été photographiées, ça dépend vraiment de chaque personne. Par exemple, Tim qui a souhaité faire des photos sous l'eau en balnéothérapie, c'est lui qui a choisi et donc moi qui me suis mise à l'eau. Voilà. Mais pour par exemple Amel qui est en fauteuil. Je lui ai soumis quelques idées d'extérieur, elle a choisi ses vêtements, Frédéric était là, bien évidemment. C'est vrai que j'avais une idée derrière la tête qui était une idée de rester extrêmement le plus artistique possible, mais en étant la plus proche de la vérité. Donc c'est vraiment un choix à deux et à trois, finalement.
Je voulais que la photographe ait la liberté de son choix, donc c'est vrai qu'on a rencontré les personnes ensemble, mais je n'ai pas assisté à la plupart des séances. C'est un moment intime entre la photographe et le photographié. Donc, ces moments-là, je n'y étais pas, de la même façon qu'Astrid n'a pas forcément assisté aux rencontres dans lesquelles les personnes me confiaient des parties de leur vie. Et d'ailleurs, il y avait un décalage total. C'est que moi, je voyais les photos, c'est-à-dire qu'après la séance, Astrid m'envoyait un choix de photos. Et elle n'a rien lu pendant 3 ans. Ce qui était extrêmement frustrant parce que moi, il fallait non seulement que je prenne des notes, mais aussi que je laisse une maturation à tout ça. Parce que ce n'était pas un reportage, justement, et je ne faisais pas un boulot de journaliste. Je n'ai pas raconté la vie des gens. C'est un regard d'auteur sûr. Et en plus, je savais que je ne pourrais pas m'affranchir du fait que je suis la mère d'un enfant différent. Je ne voulais pas que ce livre soit un livre de journaliste. C'est un livre d'auteur dans lequel je raconte des choses, des personnes que nous avons rencontrées, mais je parle aussi du handicap dans la littérature, dans le cinéma. Je raconte aussi notre amitié avec Astrid à travers ce travail. C'est un exercice totalement libre.
Être beau, c'est 18 portraits, donc
Nous avions cette joie et cette envie vraiment de montrer une image décomplexée, valorisante, valorisante vraiment, oui, du handicap, une image solaire. Et donc, en fait, la façon dont on s'est présenté aux personnes a été dans ce ton-là. Et la réponse, évidemment, la réponse a été sur ce ton-là également. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des réponses positives tout de suite. Nous avons eu qu'une réponse négative.
Pour préciser ce qu'est en train de dire Astrid, en réalité, on en parlait beaucoup, comme ça a duré 3 ans. Et dès qu'on en parlait, il y avait toujours quelqu'un qui nous disait « Ah, mais je connais quelqu'un qui… » Il faut savoir aussi que 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Il n'y a pas que des personnes qui l'avaient de naissance. Donc tout d'un coup, on nous a parlé de quelqu'un qui avait fait les 24 heures du Mans, qui avait été amputé des 4 membres. Avant, il était chef d'entreprise. Alors parfois, on nous dit effectivement, ah ben oui, ben lui, il a fait une performance. Et puis il y en a Frédéric Saussé, donc qui a fait les 24 heures du Mans et qui a fait ça alors qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Et que s'il a fait ça, c'est parce que une fois qu'il a été amputé des 4 membres, il est probable qu'à un moment, il s'est dit « si je fais pas quelque chose d'extraordinaire, je vais mourir ». C'est la façon dont chacun reçoit le handicap dont il hérite à travers un accident. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire qu'il a aucune souffrance. C'est important de le préciser parce que on a toujours l'impression que ceux qui font des choses extraordinaires ne traversent rien de terrible.
Mais ces personnes qu'on rencontre dans votre exposition « Être beau », comment peut-on les présenter? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des rencontres du hasard, des rencontres personnelles, ou est-ce qu'il y avait chez vous, je n'aimerais pas utiliser le terme de panel, de panel représentatif, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce souci de dire il faut montrer autant de jeunes que de moins jeunes, d'hommes que de femmes?
Finalement, c'est la représentation et le calque de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toutes ces singularités au niveau de ces singularités de tous âges, de toute profession, nous nous retrouvons avec des personnes effectivement qui ont réalisé des actions exemplaires, qui ont sublimé leur handicap, qui ont transformé leur vie, et puis d'autres qui le vivent plus simplement. Donc il y a des jeunes qui sont encore en devenir, il y a des professions artistiques, mais il y a aussi des métiers de tous les jours. Donc en fait, vraiment, c'est au fur et à mesure de notre vie quotidienne, les gens se sont présentés à nous naturellement. Et c'est réellement un calque de qui nous sommes dans cette société, de la variété des personnalités, des personnes dans cette société. Et puis, nous souhaitions quand même, malgré tout, avoir des personnes qui ont un handicap visible et invisible, parce qu'on parle finalement beaucoup moins du handicap invisible.
Donc ça, c'était. Alors que c'est 80%, le handicap invisible, c'est 80% des handicaps.
En fait, ce n'est pas un travail uniquement photographique. Cette exposition, d'ailleurs, qui est encore au Musée de l'Homme jusqu'au 5 janvier, donc, et qui est en fait sortie, qui est hors les murs maintenant. C'est en partenariat avec le Musée de l'Homme, les photos et les textes qui sont exposés sur les grilles de la mairie du 16e. Hein. Il n'y a pas eu de soucis de...
Oui, mais sauf que sans les textes de Frédéric de Gelt, comment voir ces photos,
mais
vos photos.
Il y a une partie des textes qui sont sur les grilles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition, ça peut avoir un côté frustrant parce que le livre, il fait 300 pages. Donc, on ne met pas 300 pages de texte sur les grilles, ni au Musée de l'Homme. J'espère que visiter cette expo et voir une partie des textes, ça donne envie de lire le livre parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de textes dedans. Mais c'est le jeu d'une exposition, c'est comme ça. En tout cas, il y avait une liberté totale et à la fois dans le texte et à la fois dans les photos. Et d'ailleurs, au début, ça a agacé beaucoup Astrid parce qu'on lui disait « Ah, on voit pas le handicap ». Et elle répondait « Mais je photographie pas un handicap, je photographie une personne ».
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont un handicap physique où on ne le voit pas. En fait, tout ça est très flou et très clair à la fois parce que l'idée était de photographier des personne. Et l'idée n'était pas de photographier des personnes handicapées, c'était réellement de trouver l'intimité de la personne, qu'il y ait réellement une reconnaissance de la personne qu'il y avait en face de moi.
Mais parmi les handicapés.
Handicapés, exactement, oui. tout à fait. C'est pour ça que c'est un travail à quatre mains et c'est pour ça que finalement les photos et les textes sont absolument indissociables. C'est vraiment un travail indissociable. Texte et photo-texte ne peuvent pas être séparés, même si les textes peuvent d'une certaine manière exister sans les photos, et les photos également artistiquement peuvent exister sans les textes, mais le projet Être beau est un projet à quatre mains.
Nicolas Huchet, l'homme qu'on voit avec sa prothèse, une prothèse futuriste, on pense beaucoup plus à un être humain augmenté, comme on dit, plutôt qu'à un handicapé. C'est quoi son histoire?
Ah oui.
Donc Nicolas, à l'âge de 18 ans, a eu la main coupée par une machine dans un atelier où il travaillait. Et à partir de là, évidemment, on lui a proposé une prothèse qui faisait juste la pince, c'est-à-dire la fonction la plus élémentaire de la main. Et il a dit « mais ça ne va pas être possible » et il a décidé de fabriquer sa main. Et il dit lui-même « je n'étais plus l'homme qui avait perdu sa main, j'étais l'homme qui fabriquait sa main ». Et à partir de là, il a commencé à faire une prothèse qui était beaucoup moins chère. Il a créé une société, il a commencé à réparer les autres, à faire des prothèses aussi pour les autres. Et c'est finalement ce handicap qui lui a déclenché une autre vie, un autre métier, une autre façon de réparer les autres et de se réparer lui-même.
Et pour les poses, parce qu'il prend des poses d'une vedette de la chanson ou du cinéma, Astrid Di Crolananza.
Absolument. L'idée, c'est ça qui est absolument formidable. C'est-à-dire que cette main bionique qui a été fabriquée donc par sa société qui s'appelle Human Kit, cette main bionique est devenue un accessoire. En fait, la recherche de Nicolas Huchet, c'est d'avoir cette main esthétique. C'est-à-dire qu'on oublie souvent la partie esthétique dans le handicap. On se dit, on va opter pour l'efficacité, mais l'esthétisme, la beauté est absolument essentielle. Donc il a posé avec cette main qui est absolument magnifique. C'est vrai que cette photo est très très prenante. Elle pourrait ressembler à une photo de science, de Matrix, de science-fiction. Enfin, on est vraiment dans une pose ultra recherchée. Et d'ailleurs, elle a été réalisée sur le lieu de travail où il a perdu sa main. Donc, ça avait beaucoup de sens en termes de réparation, de restauration de l'image. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas que Nicolas Huchet. Il y a également Anya Linder, qui est cette merveilleuse harpiste qui a été photographiée en plein milieu d'une forêt de harpes, où là aussi, on a recherché l'esthétisme, on a recherché la beauté, presque, nous pourrions dire, même... ce sont presque des gravures de mode. Et pourquoi pas?
Est-ce qu'il y avait un côté militant? On sait qu'il y a 12 millions de personnes qui sont porteurs d'un handicap en France, donc à peu près 20% de la population, et pourtant c'est vrai qu'elles ne sont pas très représentées. S'il fallait parler par exemple du cinéma et de la télévision, ou restant juste sur les chiffres accablants de la télévision, seulement 0,7% de personnes handicapées vues à la télévision dans tout programme confondu, c'est-à-dire fiction, reportage, actualité. Est-ce que c'était une manière aussi de militer pour qu'ils aient cette visibilité qui leur est toujours interdite, Astrid Di Crolla-Lanza et Frédéric De Gelt, pour terminer?
Oui, c'est plus que militant, c'est une alerte. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on ne représente pas l'autre qui a une faiblesse dans le corps, on nie l'avenir. C'est-à-dire qu'on nie l'avenir ou ce qui peut nous arriver, parce que, comme vous le savez, le corps, ça se passe pas très bien quand on vieillit. Donc, on est tous des handicapés en devenir. Et c'est pas triste de le dire comme ça. C'est comme ça. Le corps nous lâche. On va moins vite. On est en fauteuil. Et on apprend aussi de ce corps qui lâche. Et c'est bien d'apprendre avec ceux qui savent déjà ce qui se passe avec la faiblesse corporelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit en ce moment. On n'a plus accès à la culture, on ne peut pas sortir. Et donc, c'est une alerte, c'est une façon de dire pourquoi faudrait-il représenter les handicapés avec des pourcentages? Non, c'est ridicule. Vivons ensemble et partageons, parce que ils ont des choses à nous apprendre. Ils sont plus résilients que nous, ils sont plus résistants, ils sont plus volontaires, et ils ont des choses à nous apprendre, et c'est ça qui doit primer. C'est pas être gentil avec eux et les représenter à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire?
Sauf que le fait qu'ils ne soient pas du tout représentés, ça doit aussi nous questionner, non?
Ah, évidemment.
Absolument. Absolument, ouais, évidemment. C'est pour ça que nous ne sommes pas, enfin moi je ne me suis absolument pas empêchée ni freinée dans l'idée de faire des images extrêmement poétiques, artistiques, très graphiques, avec des postures et des poses que j'aurais fait avec des mannequins.
Est-ce que vous avez retouché vos photos? C'est ma dernière question, Astrid Di Crolla-Lanza.
Alors, absolument pas, chose très importante. Aucune photo n'a été refusée, censurée, aucune retouche n'a été faite. Ce sont des photos qui sont très contrastées. Donc effectivement, la pâte générale est une, et ce sont des photos avec des noirs très noirs, des blancs très blancs, des couleurs très vives. Mais il n'y a eu absolument aucune censure, aucune retouche. Je crois que c'est bien la première fois que 18 personnes n'ont rien à redire sur leur image, c'est-à-dire acceptation totale du résultat.
Être beau, le livre est paru chez Stock. Êtrebeau.org, c'est pour prolonger justement ce livre de textes et de photos, donc textes de Frédéric De Gelt et des photos d'Astrid Di Crolla-Lanza. Et puis, on peut voir ces photos en grand format en ce moment à la mairie et du 16e arrondissement. C'est en extérieur, donc c'est possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, Astrid Di Crolla-Lanza et Frédéric De Gelt.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission coordonnée par Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Olivier Arnay. Dans un instant, les informations. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau réveil culturel.
Offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Comment raconter l'histoire autrement, avec des atlas, des bandes dessinées, des romans et des jeux vidéo?
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture, Xavier Mauduit.
Quand l'histoire rebat les cartes, l'historien est à la manette, histoire de buller, d'apprendre et de comprendre.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Alors que Noël approche à grands pas, nous avons choisi de mettre le cap au nord vers les terres de Santa Claus pour nous intéresser aux pays nordiques.
Culture Monde, Florian Delorme.
On répète à l'envi qu'ils sont parvenus à développer des modèles de société dont il faudrait s'inspirer. Mais qu'en est-il réellement ? À quoi ressemble leur état-providence ? Est-il menacé aujourd'hui ? Est-ce vraiment le havre de paix, l'idéal démocratique qu'on imagine souvent ? De l'Islande à la Finlande, en passant par la Norvège, le Danemark et la Suède, les pays nordiques sont à l'épreuve cette semaine dans Culture Monde.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. L'Union européenne a donné son feu vert pour le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. Cela ouvre la voie au lancement des vaccinations dans les 27 États membres de l'Union dès ce dimanche. Attention à ne pas piétiner toutefois le consentement des personnes âgées lors de cette vaccination. C'est ce que dit déjà le Comité consultatif national d'éthique en France. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et l'Union européenne n'ont toujours pas trouvé de solution pour que les ressortissants étrangers coincés outre-Manche puissent rentrer chez eux sans transporter la nouvelle souche de Covid-19. Reportage dans cette édition à Calais, dans un port presque à l'arrêt. Nous irons aussi en Australie, où là, ce sont les habitants de Sydney qui inquiètent. Un foyer de contamination de Covid-19 a été détecté dans la plus grande ville du pays. C'est une première depuis des semaines. Et puis, direction le Maroc. Avant le premier vol cet après-midi entre Tel Aviv et Rabat, de nombreux Marocains ne voient pas ce rapprochement d'un très bon œil. L'Agence des médicaments et la Commission européenne ont donc donné leur accord pour une vaccination de Pfizer-BioNTech. La campagne va pouvoir commencer juste après Noël, dès ce week-end. Voilà ce que disent les représentants de l'Agence du médicament et de la Commission européenne. Une campagne qui se fera simultanément dans tous les pays de l'Union. En France, les entrepôts de distribution se tiennent prêts. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera d'ailleurs dans l'un d'entre eux aujourd'hui, ce matin. Mais attention ensuite à la vaccination. Hier, le Comité consultatif national d'éthique rendait son avis sur la politique de vaccination et il alerte. Attention à la question du consentement de la personne vaccinée et surtout pour les personnes âgées en EHPAD. Le CCNE donne un mode d'emploi sommaire pour recueillir ce consentement, Hélène Chevalier.
Dans son avis, le comité d'éthique insiste, la volonté de la personne doit toujours primer et pour cela, il faut avant tout que soit dispensée aux résidents une information loyale et compréhensible des bénéfices et des risques de la vaccination. Une étape fondamentale pour créer la confiance, en particulier dans cette période de défiance vaccinale, écrit le CCNE. Il estime qu'il faut ensuite un temps de réflexion personnelle, sans en préciser la durée, mais un temps nécessaire, notamment pour que la personne âgée puisse s'extirper des éventuelles pressions des uns et des autres. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que le résident effectuera la vaccination s'il le souhaite. Son consentement devra être plus formel que pour la vaccination contre la grippe où il est parfois recueilli sans véritable vérification que l'information a bien été comprise. Un consentement éventuellement par écrit. Et pour les 40 à 60% de résidents dont les troubles cognitifs empêchent d'exprimer leur avis, ce sera en priorité à la personne de confiance de prendre la décision, à la famille ou au tuteur s'il n'en a pas.
Hélène Chevalier, alors que se prépare donc la vaccination contre le Covid-19 en Europe. Et a priori, les sérums administrés devraient lutter contre la variante du Covid, variante détectée en nombre en Grande-Bretagne. Le territoire est comme coupé du monde depuis dimanche soir. On peut y aller, mais il n'est plus possible de revenir du Royaume-Uni. Les pays européens devraient prendre une décision plus pérenne dans les heures qui viennent pour organiser notamment le retour de leurs ressortissants, pour organiser aussi le transport de marchandises qui est touchée depuis deux jours et à quelques jours seulement du Brexit. C'est un coup dur pour les routiers. C'est ce qu'a pu constater Grégoire Lecalot sur le port de Calais.
Sous la pluie et le vent, le port de Calais ressemble à un désert humide. Derrière de hautes barrières blanches surmontées de barbelés, des camions embarquent encore dans un ferry, mais depuis dimanche soir, le trafic a été divisé par 10 par rapport à une journée classique. Luigi, routier italien, va passer sans savoir quand il reviendra.
Non lo so, se mi fanno andare, vado.
Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, mais je n'ai pas le choix. Je vais attendre et on verra ce que sera demain. Je ne sais pas, je vais voir ce que disent les autorités. Sur les autoroutes autour de Calais, les longues files de camions de ces dernières semaines ont disparu. Les transporteurs sont désormais réticents à envoyer des chauffeurs de l'autre côté de la Manche. Sébastien Rivera de la Fédération des Transports du Pas-de-Calais.
Effectivement, on peut encore passer en Grande-Bretagne, mais on n'a aucune garantie sur le retour. Donc dans l'incertitude, la plupart des entreprises ont décidé de ne pas envoyer leurs véhicules en Grande-Bretagne pour éviter de laisser coincer des conductrices et des conducteurs à la veille de Noël. Il va falloir trouver des solutions, parce que bon, à terme, c'est l'approvisionnement de la Grande-Bretagne qui est mis en danger, en fait.
Et de l'autre côté des eaux grises de la Manche, des milliers de camions s'entassent sur les parkings et les routes qui mènent à Douvres, en espérant revenir avant Noël.
Grégoire Le Callot. Parallèlement à cette crise sanitaire, Bruxelles et Londres discutent aussi toujours du futur Brexit. Plusieurs sujets, dont la question de la pêche, constituent des points de désaccord. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, le concédait hier. Les discussions pourraient donc durer quelques heures encore, ou peut-être quelques jours. Et sans accord commercial au 31 décembre, la semaine prochaine, les échanges entre l'Union européenne et les Britanniques se feront selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est synonyme de droits de douane ou de quotas. Le conseiller et gendre de Donald Trump est en Israël en ce moment. Jared Kushner doit d'ailleurs prendre aujourd'hui le vol inaugural qui relie Israël au Maroc. C'est une première symbolique pour parachever la normalisation entre les deux pays. Si les Marocains sont ravis de la reconnaissance officielle par les États-Unis de leur souveraineté sur le Sahara occidental, la reprise des liens avec Israël, elle, n'emporte pas l'adhésion de tous. Jared Kushner n'arrive donc pas en terrain conquis au Maroc. Il doit atterrir cet après-midi à bord du vol LY555, c'est dit Kralfi.
Le choix de ce numéro de vol est tout un symbole, 555, 5 comme la Khmissa, la main de Fatima ou main de Myriam, symbole de protection et de paix au Maghreb comme en Israël. Jared Kushner et la délégation américano-israélienne seront reçus par le gouvernement islamiste PJD. Pour l'ambiance, Mohamed Amekraz, le ministre de l'Emploi et secrétaire général de la jeunesse PJD, déclarait il y a quelques jours sur une chaîne du Hezbollah que tous les Marocains rejettent cette normalisation.
C'est la position de tous les Marocains, pas seulement du PJD.
Autre voix dissonante, celle des supporters de football, les Green Boys du Raja ont fait retentir des chants pro-palestiniens pendant les derniers matchs de l'équipe casablancaise. De quoi mettre du baume au cœur à Sion, à Sidon, militant historique de la cause palestinienne et des droits de l'homme. Il a été empêché de manifester cette semaine.
L'espace public est aujourd'hui interdit pour l'expression d'une position contraire au point de vue officiel.
Pour lui, Jared Kushner n'est pas le bienvenu.
Jared Kushner, sous influence du rabbin Pinto, représente bien le point de vue des chrétiens sionistes, les évangélistes qui sont derrière Trump. Il vient défendre un projet colonial raciste. Il n'est pas le bienvenu au Maroc.
Après ce vol inaugural, la compagnie El Al prévoit au moins un vol quotidien reliant Israël et le Maroc.
C'était Sédic Ralfi depuis le Maroc pour France Culture. Alors quels enjeux diplomatiques dans ce rapprochement entre Rabat et Tel Aviv? Guillaume Erner posera la question ce matin à partir de 7h14 tout à l'heure sur France Culture. Plus de 600 000 personnes aux États-Unis ont été vaccinées ces 8 derniers jours, c'est-à-dire environ une personne sur 500 dans le pays. La campagne bat son plein et le président élu Joe Biden a même voulu montrer l'exemple, vacciné hier soir face caméra. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Washington dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure. D'ici là, c'est en Australie que nous nous arrêtons. Après plusieurs semaines sans aucun nouveau cas de Covid-19, un nouveau foyer est apparu il y a quelques jours à Sydney. Tous les États du pays se referment donc sur eux-mêmes. Ils interdisent aux habitants de Sydney de quitter la métropole. Une mesure lourde de conséquences, évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année. Explication de Grégory Pless.
Après Melbourne, pendant l'hiver austral, c'est maintenant Sydney qui est indésirable. À partir de lundi soir, les portes de tous les autres États australiens seront fermées aux 5 millions d'habitants de la ville, mais aussi à tous ceux qui étaient simplement de passage. C'est par exemple le cas de Vicky. Elle était arrivée il y a 3 jours pour passer Noël avec sa famille. Elle retourne finalement à Brisbane dès lundi.
Je suis vraiment triste parce que je devais passer 4 jours avec ma fille et finalement je dois repartir dès ce soir. Et puis ça me coûte aussi de l'argent.
Comme des milliers d'autres, elle a dû racheter un billet d'avion à la dernière minute, sans quoi, à son retour, elle aurait dû subir une quarantaine de 2 semaines dans une chambre d'hôtel, surveillée par des gardes et facturée 2000 euros. Pourtant, malgré les déconvenues, elle comprend et soutient la fermeture des frontières intérieures.
Personnellement, je pense que c'est la bonne décision à prendre, car il faut faire comme si tout le monde était porteur du virus et être très prudent.
La fermeture des frontières ne pouvait pas tomber plus mal alors qu'on entre en Australie dans la période des grandes vacances. La situation pourrait durer. La plupart des États imposent un délai de 14 à 28 jours d'affilée sans aucun nouveau cas de transmission locale pour rouvrir leurs portes.
Grégory Pless, correspondant en Australie de France Culture. Les éclaircies seront belles sur le sud de la France métropolitaine ce mardi, gagnant légèrement du terrain vers le centre au fil de la journée. Ailleurs, c'est-à-dire sur la moitié nord, au nord de la Loire, les averses sont toujours d'actualité. Ce matin, il fait 8 degrés à Lyon, 10 degrés sous le soleil de Nice, mais déjà 13 sous la pluie à Brest et à Paris. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture et nous retrouvons Julie Gacon pour les enjeux internationaux. Bonjour Julie.
Bonjour Clara.
Cette semaine, vous posez à vos invités la question « Comment le coronavirus a-t-il changé le monde ?» Ce matin, l'Europe en est-elle encore fragilisée ?
Oui, l'Europe qui traversait déjà une crise politique, une crise économique et sociale, une crise de leadership, une crise des valeurs, la crise sanitaire aurait pu être le coup de grâce. Alors elle l'est très certainement pour ce qui est de la cohésion sociale sur tout le continent. Elle a en revanche révélé après un très mauvais départ, et malgré des mesures de confinement, de reconfinement ou de re-reconfinement qui ne sont pas les mêmes partout, eh bien elle a révélé qu'en dépit de tout ça, les 27 savaient prendre des décisions ensemble, un plan de relance ou un emprunt. Le coronavirus aura-t-il fait avancer le projet politique de l'Union européenne ? Bonjour Sébastien Maillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Sébastien Maillard, pour mesurer le chemin parcouru ou pas en une année, encore faut-il se rappeler ce qu'il y avait au début du chemin. Combien de temps a-t-il fallu à l'Union européenne pour qu'elle prenne la mesure de ce qui était en train de se passer ?
Il a fallu, on dirait, un bon mois. On se souvient effectivement, au tout début mars, l'Europe était complètement prise de court, que ce soit à Bruxelles comme dans toutes les capitales de l'Union européenne. Et en plus, dans un domaine de surcroît, la santé publique, qui n'a jamais été le cœur de cible de l'intégration européenne. Il n'y avait pas de commissaire européen à la santé avant 2000, et l'Europe avait plutôt des compétences en matière de santé animale que de santé publique. Donc effectivement, on n'a rien vu venir. On se souvient qu'il y avait un Conseil européen, fin février, dernier Conseil européen physique des chefs d'État de gouvernement à Bruxelles, où on parlait déjà du budget européen, mais absolument rien sur la Covid. Et donc effectivement, ça a été au départ un sauf qui peut avec chaque État en mode survie et non pas en mode coopératif. Mais voyez, au moment où on rappelle tous ces souvenirs de début de pandémie, et bien à un moment où on se parle ce matin, l'Europe entière des 27 se prépare à entamer une campagne de vaccination de l'ensemble des 27 la semaine prochaine.
Oui, d'ailleurs, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le présente comme un moment d'unité. C'est peut-être un petit peu exagéré, une campagne de vaccination le même jour. Bon, c'est peut-être pour le symbole. Enfin, je ne sais pas, ça vous paraît être un élément de communication plus qu'autre chose ?
Non, pas seulement de communication, c'est aussi un terme d'équité pour qu'effectivement les 450 millions de citoyens européens aient un égal accès à ces vaccins, et pas seulement, vous savez qu'on n'est pas tous, il y a des grands pays, des petits pays, il y a des pays plus riches, des pays plus pauvres, et qu'on soit bulgare ou français, ou letton ou portugais, ben effectivement, c'est important de savoir que ces vaccins, ils sont disponibles pour tout le monde.
Donc la solidarité commence à reprendre le dessus, alors qu'au départ, l'Union européenne n'a pas donné un très beau spectacle d'elle-même, Sébastien Maillard, avec des frontières voilà, rétablies sans même avertir les voisins ni Bruxelles. On disait que c'était un sujet italien, alors qu'au fur et à mesure, s'il y a une chose sur laquelle les Européens ont été à peu près synchrone, en tout cas si on lisse les chiffres sur l'année en cours, c'est que quelles que soient les mesures prises, tous les États ont été touchés de façon à peu près identique par le coronavirus.
Alors tous les États ont été touchés et sont touchés, pas exactement au même moment. On voit bien entre l'intensité de la deuxième vague et par rapport à la première, ce sont pas forcément les mêmes pays qui sont frappés, et certains qui pouvaient être épargnés au début ne le sont plus aujourd'hui. On le voit notamment à l'est de l'Europe. Mais peut-être aussi la grande différence avec les crises précédentes que vous rappelez au début, c'est que cette pandémie surprise, effectivement, elle touche tout le monde et elle est la faute de personne. On peut pas dire que c'est la faute aux banquiers ou c'est la faute aux Grecs ou c'est la faute aux migrants ou c'est la faute aux Anglais. Là, c'était ça la grande nouveauté aussi par rapport aux autres crises européennes, c'est que il y a pas d'aléa moral. Et effectivement, c'est pour ça que ça a pu jouer sur la solidarité qui s'est mise en place, c'est que chaque État sait qu'il a besoin des autres pour s'en sortir et que ce n'est pas la faute d'un État en particulier.
Et socialement, est-ce que l'Europe a été touchée partout de la même manière? Est-ce que tous les États ont sorti à peu près les mêmes filets de sécurité, les mêmes filets sociaux?
C'est vrai que tous les États sont économiquement déjà tous frappés. On va tous finir l'année en négatif. Hein. C'est des croissances négatives pour tout le monde. Les secteurs de l'économie sont très inégalement frappés. Le tourisme, l'hôtellerie, l'aéronautique, l'automobile sont bien plus frappés durement dans tous ces pays, selon l'importance qu'ils y ont par rapport, par exemple, au secteur numérique ou la pharmacie. Mais là, c'est pas forcément le numérique, par exemple, là où on a les plus grands acteurs européens. Socialement, on a tous su limiter les dégâts par, globalement, pendant cette année, un recours massif au chômage partiel. Notamment, on l'a vu en France. Mais il y a eu, pour soutenir ce chômage partiel qui a été déployé à une échelle inédite à travers tout le continent, il y a eu la mise sur pied d'un nouveau mécanisme européen de soutien financier aux États pour justement les aider à soutenir ces dispositifs de chômage partiel avec des prêts à taux d'intérêt très bas. Et d'ailleurs, la Commission européenne emprunte déjà sur les marchés pour aider des pays comme l'Espagne, par exemple, à financer ce chômage partiel. Et je crois que ça a été une très grande différence de la réponse sociale à cette pandémie par rapport à ce qu'on a pu observer aux États-Unis avec une flambée du chômage et très peu d'assurance maladie.
Alors, l'étude de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, la dernière à ma connaissance, date de fin septembre, disait quand même que sur le continent européen, 6 chômeurs sur 10 n'avaient bénéficié d'aucune aide depuis le début de la pandémie et ont été contraints de se tourner vers des soutiens informels, notamment familiaux, pour tenir. Or, disait le rapport, le pire de la crise est probablement encore à venir, notamment en matière de destruction d'emplois.
Oui, on s'attend à 2021, une année difficile sur le front du chômage. Encore une fois, l'étude que vous citiez, effectivement, a été faite avant l'automne et tout ce qui a été mis en place avec ce programme européen pour soutenir davantage le recours au chômage partiel. En même temps, on sait qu'on ne peut pas y recourir indéfiniment. Mais c'est pour ça qu'on attend maintenant le plan de relance européen qui a été, je dirais, la grande avancée de l'année, qui a été décidé cet été et confirmé au dernier Conseil européen. Il est énorme, pas seulement en raison des montants inédits à cet échelon, hein, les 750 milliards d'euros d'argent frais qui vont être dépensés là sur 3 ans, mais surtout, ce qui est effectivement nouveau, c'est qu'on accepte de s'endetter en commun via la Commission européenne qui va emprunter l'an prochain au nom des 27 pour s'endetter entre nous. Et une majorité de cet argent qui va être levé sur les marchés sera pas prêté aux États, mais donné aux pays les plus frappés. Et donc c'est ça la nouvelle solidarité européenne qu'on voit se mettre en place cette année.
C'est vrai qu'il a fallu du temps pour convaincre la Hongrie et la Pologne de lever leur veto. Elles ne voulaient pas conditionner l'octroi de ce prêt à la question de l'État de droit. Le Parlement européen ne l'a toujours pas voté. L'été prochain, Parlement européen, les parlements nationaux, doivent le voter. Ils en sont où? C'est-à-dire, est-ce qu'en attendant, ils ont attendu les bras ballants que tout ça se passe, ou ils sont prêts à le faire?
Eh bien, ils ne pouvaient pas le faire tant que, effectivement, la décision de relever. En fait, il s'agit d'une décision qui autorise la Commission européenne à relever son niveau de dépenses. Et les parlements nationaux ne pouvaient vraiment pas légalement le faire tant que ça n'avait pas été décidé au niveau européen. Maintenant, l'Assemblée nationale en France, le Sénat, dès le début de l'année prochaine, vont pouvoir voter ce texte, et ainsi l'ensemble des 27 parlements nationaux. On s'attend effectivement à ce que ça dure tout le début de l'année prochaine, jusqu'au printemps, et que la Commission puisse emprunter sur les marchés pour lever ses fonds, en gros à la moitié de l'année prochaine.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Le but, c'est d'avoir des premiers décaissements très rapidement pour relancer l'économie ainsi.
Donc par exemple, est-ce qu'on a quelques exemples de projets précis qui sont là en attente de financement pour pouvoir commencer?
Oui, les États ont donné, chaque État doit donner un plan de relance national qui sera, que la Commission vérifiera, parce qu'effectivement cet argent, il s'agit de le dépenser certes rapidement pour soutenir l'économie, mais il faut l'utiliser à bon escient. Hein. Et donc, effectivement, le but, c'est aussi de que ça soutienne les projets novateurs. Je pense à tous les programmes de rénovation thermique des bâtiments, à des projets de transport plus propres. Le but, c'est que ce plan de relance, tout cet argent, serve à accélérer, non pas à ralentir la transition écologique, et qu'on ait des projets d'économie circulaire. Tout ça, c'est mis en œuvre par ce plan de relance. Il s'agit d'un nouvel engagement fort. D'ailleurs, on a vu pendant cette pandémie, ça n'a pas empêché les 27 de s'entendre tout récemment encore, de réduire d'ici 10 ans nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à leur niveau de 1990, alors qu'avant on voulait qu'un objectif de 40%. Donc c'est pas un plan de relance pour les énergies fossiles. On sait que effectivement ça va être un plan de relance pour accélérer la transition écologique et pour faire en sorte que l'Europe aille de l'avant là-dessus, qu'elle garde un leadership mondial, puisque on voit bien que aussi bien les Chinois que les États-Unis se mettent aussi dans cette course.
Alors justement, hier avec Alice Ekman, on avait parlé de l'accord sur les investissements que l'Union européenne est en train de négocier avec la Chine. La première, l'UE, ayant l'intention d'accéder plus facilement au marché de la seconde, mais cela ne se fera pas, on l'imagine, sans contrepartie. En quoi cet accord, qui pose d'autres questions de respect des droits de l'homme par ailleurs, en quoi est-ce qu'il peut réduire la dépendance européenne à la Chine, qui a été à nouveau révélée pendant cette... qui a été confirmé pendant cette crise?
Oui, c'est vrai que pendant cette crise, on s'est rendu compte à quel point on était interdépendants entre nous, mais aussi très dépendants de la Chine au-delà, notamment pour se procurer des médicaments, enfin des principes actifs pour les fabriquer, et puis aussi certains matériels de protection. Là, cet accord sur l'investissement qui est négocié depuis 7 ans et qui, selon la Commission, serait prêt maintenant à 95%, il sert surtout à établir un plus de réciprocité entre la Chine et l'Union européenne, à ce que la Chine fasse des concessions pour un meilleur accès à ses propres marchés, à ce qu'on puisse protéger la protection intellectuelle, les propriétés intellectuelles dans l'investissement qu'on y fait, à empêcher des transferts technologiques. C'est pas encore fait. La France, d'ailleurs, n'est pas très convaincue par ces négociations actuelles et elle craint un peu une précipitation. Avec des Chinois très pressés de conclure avant l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis. Le Parlement européen lui-même est très vigilant. Il a voté la semaine dernière une résolution pour effectivement que cet accord oblige aussi la Chine à signer certaines des conventions avec l'Organisation internationale du travail pour notamment aussi empêcher le travail forcé qui a lieu. Donc la Commission européenne reste sur ses gardes. Pas plus tard qu'hier, elle a ouvert deux enquêtes anti-dumping sur les importations d'aluminium chinois. Donc la négociation avance, mais c'est pas encore fait. Et c'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'année qu'il faut à conclure à tout prix.
La France, dites-vous, est un peu sceptique. Alors j'ai appris dans le journal Le Monde récemment qu'elle souhaitait par ailleurs investir dans les maisons de retraite en Chine. Quels sont les secteurs chinois qui intéressent les Européens en général? Et en contrepartie, à quel marché, quel secteur la Chine aura-t-elle accès si cet accord est conclu?
Si l'accord est conclu, la Chine, elle, espère bien notamment accéder au marché européen des énergies renouvelables. Et là, ça montre bien effectivement à quel point elle se prépare aussi dans cette transition écologique à être un acteur de premier plan et avoir ses propres panneaux photovoltaïques, ses propres matériaux peut-être qui vont concurrencer les nôtres. Donc effectivement, un marché qui l'intéresse beaucoup. Nous, côté français et côté même européen, effectivement, il y a plein de produits que nous fabriquons, que nous aimerions davantage pouvoir vendre en Chine et que les marchés soient plus ouverts, mais aussi, encore une fois, avec une protection de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait des transferts forcés de technologies à notre détriment.
Et justement, le Danemark n'est pas très partant pour que la Chine ait accès à certains secteurs comme les énergies renouvelables. Est-ce que ce ne serait pas de nature à mettre à mal ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe qui voudrait être un acteur majeur dans ce dossier-là du renouvelable, du Green Deal, de la transition?
En même temps, si on est persuadé qu'on a de très bonnes technologies, de très bon savoir-faire dans la matière, on n'a pas non plus trop à craindre cette ouverture. En tous les cas, on est dans un domaine où l'Europe a une longueur d'avance.
En tout cas, s'il y a une autre leçon tirée de cette crise, c'est que les Européens ont très peu d'alliés. On dit que c'est justement dans les crises qu'on compte ses amis. En tout cas, sous Donald Trump, les Européens n'auront pas vraiment pu compter sur la solidarité transatlantique. Est-ce qu'ils vont devoir, à l'avenir, repenser ces relations-là, notamment à la faveur de l'élection de Joe Biden? Ou est-ce que, de toute façon, les Européens doivent prendre leur trajectoire sans eux, sans les États-Unis?
Je pense qu'une des grandes leçons de cette crise sanitaire que nous vivons tous ensemble depuis le mois de mars, c'est que, un, on s'en sort mieux ensemble que tout seul. Aucun pays peut prétendre réussir tout seul à s'équiper, à avoir les vaccins, à pouvoir sortir de ce virus sans les autres. Donc on est vraiment tous interdépendants. Et donc le principe de la construction européenne, c'est d'organiser cette indépendance entre nous au mieux. Et effectivement qu'il ne faut plus attendre de grands frères alliés pour nous libérer. Nous ne soyons pas trop dépendants des autres puissances. Et d'ailleurs, on ne partage pas les mêmes préférences collectives. On a vu le modèle chinois ou le modèle américain ne nous ont pas fait rêver pendant cette crise. Et on a en Europe un modèle propre. Et je pense que notre projet politique demain, c'est de faire vivre ce modèle, de le proposer au monde, un monde plus brutal, avec plus de rapports de force, des puissances qui ne cherchent pas le bien de l'Europe, qui est donc, elle, est appelée à s'affirmer, à se faire entendre dans un monde multipolaire sans se renier. C'est l'idée de l'Europe soit soi-même, comme lui disaient les papes. Et donc, il faut effectivement que... c'est pas parce qu'il y a Joe Biden qui arrive à la Maison-Blanche que tout d'un coup, ça va changer la donne pour les Européens qui doivent apprendre à compter davantage, beaucoup plus sur eux-mêmes, et cette crise sanitaire l'a âprement montré.
Notamment les commandes de masques détournées sur le tarmac des aéroports par des avions américains. Est-ce que ça aura achevé de convaincre ceux qui en doutaient jusqu'à présent, Sébastien Maillard?
Effectivement, en France, on en est déjà assez convaincus. La grande question, c'est en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, avec l'arrivée d'une administration Biden beaucoup plus transatlantiste, qui sera beaucoup plus ouvert à un multilatéralisme effectivement auquel nous sommes très favorables. Est-ce que du coup ça va, je dirais, relâcher un peu l'attente côté allemand que effectivement finalement on peut revenir comme avant et tout va bien se passer avec nos amis américains? C'est une question ouverte. Ça dépendra aussi qui succédera à Angela Merkel, qui était la grande question de l'année prochaine, 2021. On sait qu'il y a des élections en Allemagne prévues le 26 septembre l'année prochaine, et avant ça, un congrès de la CDU début janvier pour voir qui succédera à la présidence de la CDU et qui sera après candidat à la chancellerie.
On suivra ça.
Je pense que la façon dont l'Allemagne elle-même va voir la suite et organiser son rapport aux États-Unis, son rapport au monde, va énormément compter aussi dans la manière dont l'Europe elle-même va comprendre sa puissance aussi.
Merci beaucoup.
À manifester à l'égard d'un monde.
Merci beaucoup Sébastien Maillard. Bonne journée.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce mardi, je vous offre une belle rencontre, celle d'une jeune Française, honorée du prestigieux prix Goldman 2020, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement.
Sur France Culture, Aurélie Luneau.
Lucie Pinson, militante anti-charbon, nous expliquera pourquoi et comment elle provoque le divorce entre le monde de la finance et les énergies fossiles. Et avec l'économiste Laurence Sialom, elles nous feront entrer dans les arcanes de ce secteur quelque peu nébuleux.
Nature, environnement, de cause à effet, ce mardi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon.
Votre humeur du jour, Guillaume, faut-il préciser d'un pédocriminel qu'il est juif ?
Souvenez-vous, hier, j'évoquais une photo choisie par le journal du dimanche pour illustrer un article consacré à Jean-Louis Brunel, le complice du pédocriminel Epstein. Cet homme est accusé notamment de traite d'êtres humains. Et je m'étonnais que le JDD ait choisi pour illustrer ce papier une photo de Brunel arborant une casquette de l'armée israélienne, puisque Brunel ne sert pas d'Anzal. Or, figurez-vous qu'un auditeur m'a signalé que Brunel n'était pas le vrai nom de Brunel, que celui-ci portait en réalité un patronyme juif. Mais alors, dans ce cas, le choix iconographique est parfaitement pernicieux, puisqu'il consiste à dire de manière subliminale « Cet homme que voici est juif, mais comme je ne peux pas vous le dire, je le suggère par un petit détail que les initiés sauront reconnaître. » Alors j'ai tenté de vérifier que Brunel était un pseudo, ou bien que son nom véritable était à consonance juive. Je n'ai rien trouvé de véritablement sourcé. Et puis, j'ai eu aussi un peu honte, je me suis rendu compte que je me livrais au même sport que tous ces internautes qui traquent les juifs sur internet se demandant si Enrico Macias, Donald Trump ou le pape sont des juifs. Mais justement, sur toute une série de sites conspirationnistes et ou antisémites, chez des auteurs spécialisés dans ce genre de littérature, Jean-Louis Brunel est présenté comme juif. Or, le fait que Brunel soit juif n'est évidemment en rien explicatif de ses actes, sauf bien sûr si l'on adhère à une explication antisémite. Et c'est là où l'affaire devient singulière, car Brunel est accusé de traite d'êtres humains. Exactement la rumeur qui était diffusée à Orléans en 1969 qui accusait les commerçants juifs de faire disparaître les jeunes filles juives dans les cabines d'essayage pour les prostituer dans des contrées lointaines. Dans le cas d'Orléans, il s'agissait d'une rumeur sans fondement, comme l'avait étudié alors Edgar Morin. Dans le cas de Brunel, il en va évidemment tout autrement, mais justement l'association entre juifs et pédocriminels est comme réactivée, comme si Brunel était encore plus coupable. Parce qu'en réalité, derrière le patronyme innocent, se tairait un juif. Eh bien, je ne vois pas de meilleure illustration d'un stéréotype antisémite.